Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, en compagnie de mon grand ami Roger.
Bien, là il y a la rime. La semaine dernière, je vous avais fait remarquer qu'il n'y avait pas de rime. La rime est bonne.
Vous êtes sensible à la rime.
Ouais, le rythme, on ne va pas dire que le rythme était véritablement joué, mais je vais vous mettre ça sur le compte de la météo.
Les temps sont gris,
voire noirs, voire bruns. Puisqu'après, ça vient de tomber à l'instant, après leur super manifestation, elle pas interdite, parce que sans casserole de l'extrême droite, ils ont tenu un concert à rien dans une salle Simone Veil.
Oh, c'est vrai.
Mais ça ne pose pas de problème au préfet de police. Continuons comme ça.
On va quand même parler un peu de bande dessinée.
Ouais, c'est plus drôle.
On va partager des chroniques aujourd'hui avec vous et puis un peu d'actu. On va parler de tout un truc. On a une chronique qui a été envoyée par un de nos amis lecteurs. Bref, on va essayer
En culotte courte.
Oh, oui, ça se trouve. Ouais, ça se trouve, effectivement. Je ne le connaissais pas assez bien.
Vous le connaissez pas. Il est très jeune.
Non. Nous avons une correspondance épistolaire. Puisqu'il nous a envoyé effectivement une chronique d'un album, comme vous pouvez le faire, on vous l'a dit, nous, moins on peut travailler, plus on est content, on est la France qui traverse la route.
Alors par contre, nous, on prend 50% des goodies. Hein,
ouais, si ça ramène quelque chose.
Ouais, t-shirt, casquette, sifflet, voilà, parce que on vit de ça, nous, Erwan et moi, s'il faut le savoir quand même. Donc voilà, on prend quand même 50% des goodies des éditeurs.
Et puis bien entendu de la musique, alors c'est votre groupe du moment, ça, Dalle Béton, c'est votre truc.
Ah oui, Dalle Béton, c'est mon petit groupe chéri après l'excellent 49.3 de la semaine dernière, en phase avec l'actualité, un autre dans lequel ils se répandent en ignominie sur les tiers-lieux, puisque c'est un morceau qui s'intitule effectivement « Mange ton compost dans ton tiers-lieu ». Et dans l'excellente revue Bikini, ce qui est assez rigolo, comme dans les quelques informations qu'on récupère dans l'excellent magazine Bikini, d'ailleurs, par ailleurs, eh bien, on apprend qu'il y en a un Dalle Béton qui bosse dans un tiers-lieu, effectivement. Alors, est-ce que son boulot le saoule? Je sais pas.
Salut. Alors, nous, c'est une bande de potes. On a créé un collectif parce que on avait tous une vie à 100 000 à l'heure. Puis un jour, on s'est dit, mais what, quoi? La vie, elle passe. Puis on s'est dit, on va créer un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est quoi un tiers-lieu? C'est un lieu collectif où on partage des savoir-faire autour de l'écologie, de la musique, de la cuisine, du yoga, tout ça pour être un peu plus zen au quotidien.
Mange ton compote dans ton terrier. Mange ton compote dans ton terrier. Mange ton compote.
fait, c'est qu'on a créé une société coopérative d'intérêt collectif. Je crois que ça porte bien son nom. C'est fait par tous et pour tous. Que chacun y trouve sa place. Moi je vous le dis, les tiers-lieux, c'est bien plus qu'une mode, c'est un mode de vie. Le tiers-lieu, il peut pas exister sans le collectif. Un tiers-lieu, c'est avant tout une histoire de partage. C'est un véritable lieu de création, de réseau, d'accueil du public, qu'importe l'âge, la personne. C'est un lieu qui se nourrit de rencontres et d'échanges culturels et intellectuels.
Je crois qu'il y avait un message.
Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça me fait pousser les cheveux. Ça me fait repousser les cheveux. J'ai l'impression d'être en 1986 avec Berruyer Noir.
Ouais, Stupé Flip, voir les Ludwig. Moi, ça me fait plutôt penser à des conneries à la façon Ludwig.
Vous savez, comment Pierre Vieille attaquait, ignore sa destinée. West France, comment Enaf Salo, les porcs auront ta peau, c'était France Culture et les cramés, voilà, il fallait que j'en trouve le nom. En tout cas, toute cette magie de l'alternative qui revient, peut-être par la grâce de notre président à vie qui défile dans Paris façon Pyongyang. Alors, je sais pas si vous avez vu les images. Mais alors il faisait
quand même bonjour à la télé, c'est sympa.
Et alors c'était hallucinant, parce qu'on le voyait remonter avec ses petits chevaux devant et tout, il était milieu, et il n'y avait personne dans les rues. Et il faisait tout gris, tout pourri, et j'avais l'impression que c'était Pyongyang avec Chouki.
Manquait les grands missiles derrière.
Ouais, c'est grave.
Et c'était bon.
Mais apparemment, ça n'a pas l'air de trop le déranger, comme n'ont pas l'air trop de déranger Mediapart. Alors ça me fait un peu mal au cul de dire du mal de Mediapart, auquel je suis abonné par ailleurs, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris la nouvelle. Savez-vous qu'il y a un auteur de BD dont moi j'aurais au moins la prévention de taire le nom, parce que mesdames et messieurs de Mediapart, il existe quand même aussi la présomption d'innocence. Donc avant de traîner une autrice ou un auteur de BD dans la bouillasse, encore faudrait-il être sûr qu'il mérita de se faire retrouver dans la bouillasse. Il s'avérerait, donc selon un article paru chez Mediapart la semaine dernière, qu'un auteur de BD il serait chaud, un peu comme notre ministre des Finances, mais lui, il serait plus dans le bondage, vous voyez, dans le bondage, des instruments.
Ouais, il serait un peu libertin dans sa vie privée.
Voilà. Et donc, comme il est auteur de BD, voilà Tipa qu'aussitôt, on nous sort un dossier. Le MeToo dans la BD, il faut que l'omerta cesse.
Il y a eu deux plaintes contre ce monsieur pour agression sexuelle, mais elles ont été classées, après une enquête préliminaire, elles ont été classées sans suite, quoi.
Alors par contre, c'est pas pour défendre forcément les accusatrices, mais vous savez très bien comment, malheureusement, c'est à la victime de faire la preuve, etc. Les conditions sont très dures, même pour la victime de s'exprimer, donc... Mais encore une fois, l'auteur de ces faits qui lui sont imputés est présumé innocent aussi. Il est hors de question, à la différence de Mediapart, que nous balancions son nom à l'antenne. Par contre, là où ça me saoule, c'est qu'aussitôt, là, je vous dis, la suite de l'article, c'est « Oui, MeToo dans la BD, faut faire le ménage, l'omerta ici. » Mais putain, ce mec-là, branché bondage, j'aurais très bien pu être boulanger, magasinier, professeur d'histoire géo, ou je sais pas, moi, ministre des Finances. Bref, il aurait pu être n'importe quoi. Donc, faire un lien entre l'omerta et les problèmes qui puissent exister lorsqu'on est autrice commande de bande dessinée avec un cas, je trouve ça un petit peu... Et puis je voulais déjà en parler parce que lorsqu'il y a eu l'affaire de Bastien Vivès, vous savez, il y a eu toute une tribune avec un appel à, à rouler Monsieur Bastien Vivès dans la bouillasse. Et déjà, là, c'était le journal Mediapart qui était à la manœuvre. Et on a bien vu la réaction des vieux anciens, comment l'auteur du transpersonnage, je l'ai revisé...
Rochette
à... Ouais, Monsieur Rochette, et tous les anciens de la BD qui étaient stupéfaits de cette espèce de lancement de chasse aux sorcières, en plus menée quelque part par Mediapart, un journal qui à mon sens, je vous dis, j'y suis abonné, moi, que je voyais un peu aux antipodes de ce genre de délire. Quoi.
Disons, ce qui est perturbant ou troublant, c'est que donc des auteurs de bandes dessinées se retrouvent sous le feu des projecteurs. Ça en devient aussi du coup une espèce de petit procès de la bande dessinée, je trouve,
derrière.
Des fois Parce que tu as l'idée que ces dessinateurs, finalement, dans leurs œuvres, sont forcément un peu poussés au crime ou quoi. C'est pas des Weinstein non plus, je veux dire, c'est pas des mecs qui tirent toutes les grosses ficelles, qui peuvent se permettre. Bah, si tu couches pas avec moi, tu feras plus aucune BD, quoi.
Et là, les victimes ne sont pas des forcément des autrices ou des personnes qui étaient en lien avec la bande dessinée.
Ouais,
c'est
ouais.
L'autre qui est chaud patate, qui aime bien ficeler ses partenaires, etc., etc. Moi, je laisse, à la différence de Mediapart, le soin à la justice, si tant est fut qu'il y a un procès, parce qu'en plus, on n'en est même pas sûr, de démêler le vrai du faux, etc., que les victimes puissent s'exprimer, c'est tout à fait normal. Mais avant de dire, il est temps de faire un MeToo dans la BD, tu veux quoi, Mediapart, des commissaires politiques du sexe dans la bande dessinée, c'est ça que tu
ouais,
veux
ouais, disons que des hommes déconnent, on veut bien, mais enfin
ça peut être dans n'importe quelle profession. Ouais. Là, on était vraiment dans le domaine extérieur, quoi.
Mais c'est vieux comme Hérode, ce genre de discours où alors des fois c'est la BD. Avant, il y a un moment, c'était le jeu de rôle. Moi, je me souviens quand j'étais lycéen, c'était le jeu de rôle qui allait te devenir sataniste, frappe à dingue parce que tu faisais des jeux de rôle, quoi. Donc là, tu lirais certains albums et d'un seul coup, bah tu perdrais tout contrôle de toi-même. Enfin, il y a l'idée que l'art, le 9e art, serait un pouce au crime, ça me paraît assez aberrant,
ouais,
effectivement.
Et puis le milieu de la bande dessinée, je ne sais pas si Mediapart le connaît, mais visiblement non. C'est pas le cinéma, quoi. La coke ne roule pas à flot.
C'est des dessinateurs, c'est pas des éditeurs, c'est pas des gens non plus qui ont des postes.
3 mecs sur 4 sont à RSA, enfin, faut arrêter les conneries, quoi, et arrêter les fantasmes. Enfin, bref, c'était très décevant de la part d'un journal que je respecte profondément par ailleurs. Venons-en maintenant, justement, quelque chose de plus clairement établi par la voix de Monsieur Pochep, notre petit chéri, Monsieur Pochep.
Un briquet, un t-shirt, merci.
Non, Monsieur Pochep. Ouais,
il a même plus à le faire, tellement vous êtes à coquiner avec lui. Même plus rien à donner, lui. Un sourire et ça suffit, quoi.
C'est vrai que quand il me sourit, je craque. Il se fait le relais d'une campagne. Il y a une campagne en ce moment qui est très importante. Et puisqu'on parlait de Mediapart, on peut parler de la presse qui, elle, prend le risque, à la différence de Mediapart, d'être encore de la presse papier. Je veux parler de Topo, la revue dessinée de 6 mois et de 21. Est-ce que vous savez, comme nous le rappelle Monsieur Pochep, que le prix du papier a augmenté de 85% en 18 mois ?
Oui, ça je sais.
Et monsieur...
J'ai entendu ça dans un documentaire où justement on réfléchissait, vu le nombre d'albums qui partent au pilon en France, qu'il y avait sans doute un gros gâchis. C'était un reportage là-dessus.
Alors il nous dit, monsieur Pochep, que donc cette hausse est due à la guerre en Ukraine, au prix de l'énergie, la demande croissante de cartons et emballages. Du coup, la presse indépendante souffre
animalement. C'est votre côté royal anglais, ça.
Ouais, souffre énormément de cette hausse. Alors, on voit un petit bonhomme qui pose une question. Suffirait-il à ce moment-là de produire plus de pâte à papier ? Sauf que les arbres, comme nous rappelle Monsieur Philippe Pochep, les arbres ne poussent pas aussi vite que dans Astérix. Vous savez, dans le domaine des dieux, il suffit de jeter un gland magique et zou, pouf, on a un arbre qui pousse. Alors, il reste encore aux journaux indépendants deux options. Soit ils augmentent le prix de vente et on a un bouquin qui arrive à des prix qui seront dissuasifs pour les lecteurs. Soit on met de la pub. Donc, ces deux alternatives étant clairement refusées par ces quatre journaux, aussi Topo, la revue dessinée, 6 mois et 21, ont lancé une grande campagne de dons et d'abonnements pour faire face à la hausse des prix du papier. Et ils appellent effectivement les lectrices et les lecteurs de bandes dessinées. C'est de l'investigation. Enfin, moi, je sais que je vous ai chroniqué ici même certains articles de la revue dessinée, mais de Topo. Aussi. J'aime bien Topo. Monsieur Pochep, il est dans Topo. Il n'est pas dans la revue dessinée. Et un autre que j'aime bien, c'est monsieur Mazuri, qui lui est dans la revue dessinée, que j'adore, et il fait des reportages régulièrement là-dedans. Et bref, j'aime bien acheter Topo de temps en temps, mais le libraire, celui dont taira le nom, il me regarde et il me dit...
T'es pourquoi ?
Il me dit, ça y est, t'achètes Topo, je vais appeler le juge pour enfants, vous voyez. Il me prend pour le Dalai Lama.
De nos jours, faut faire gaffe.
Si j'achète Topo, il me prend pour le Dalai Lama qui va demander à un gamin de 7 ans lui sucer la langue.
Ouais,
et non, clair. On peut acheter Topo même si on est vieux. Moi, j'adore
Topo. Je vais vous prendre un Bastien Vivet, c'est Topo.
Est-ce que vous pouvez me les emballer? C'est pour offrir. Non, moi je suis désolé. On peut être vieux et lire Topo. Topo, c'est excellent. La revue dessinée, c'est bien aussi, mais c'est plus compliqué. Hein. C'est vachement plus sérieux. Alors 21, malheureusement, je ne connais pas. Aussi, je me tairai. Et pas plus que 6 mois. Mais j'invite effectivement les auditrices et les auditeurs à soutenir ces 4 revues parce que derrière, il y a aussi énormément de travail. Et du véritable travail d'investigation, de la vraie presse.
C'est de la presse.
Ouais, presse libre et indépendante. Aussi, il ne faudra pas s'étonner si tout le monde reste scotché sur BFM TV, CNews, LCI et autres merdes, si on oublie de soutenir la presse indépendante qui a les couilles pour, en plus de ça, vouloir imprimer des formats papier qui sont bien plus agréables à lire que les formats numériques, hein. Alors ça, c'est mon grand âge qu'ils font le dire. Mais en tout cas, c'est énormément de travail. Il y a du génie à toutes les pages. Et en plus, le choix pour les deux revues que je connais, en tout cas pour moi, la Topo et la revue dessinée, c'est faire le choix, par exemple, même au niveau du dessin, de faire des choix audacieux. C'est-à-dire qu'on va pas être dans la BD de façon Oncle Paul qui suscite une pipe. Comment dirais-je ? Non, c'est pas forcément de la BD classique. On a des expériences graphiques à travers le reportage, qui soutiennent le reportage. C'est du gros, gros boulot, beaucoup de courage. Et si ça disparaît, il faudra pas venir pigner. Aussi, abonnez-vous à Topo, la revue dessinée, 6 mois et 21. Ou mieux, donnez-leur carrément des sous.
Impeccable. Interlude musicale ?
Yes.
Et après, on attaquera la chronique avec la chronique que nous a envoyée Christophe du Luxembourg et qui va nous parler d'un grizzly.
Kindness is a trick to turn you strange. Until you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick. And gets you in the 6 feet nice and quick. No fair, they can talk to me. I can live alone. Happy, where I like to be. I can live alone, 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 alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone.
Fairies get their fingers and they spin your wheel. And they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? Pope knocked on your door. But you went and fell in love. And into you love fell. And it made you feel unwell. Oh well. There's a thing about people I suppose it's alright. It's when they smile right at the pain through all the day and night. The fool dies at the altar in a smile. Says I'm moving to America. You won't see me for a while. If I get the ferry over, will the fairies follow me? Will they throw me?
No fair, they can follow me. I can live alone, I can live alone. Happy, where I like to be. I can live alone, 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 alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone.
Devil takes your soul, he does not care. If you're shot down like a dog or expired on the stairs. The boat is drifting in, the weight is cast. How can
Life goes so slowly and death comes so fast. Across the river Styx I row along, but I've got one more song, more song.
Les plus fins de nos auditeurs ont reconnu peut-être la voix de Graham Chatten, la voix de Fontaine D.C., qui nous propose quelques morceaux en solo. On peut trouver ça sur YouTube et c'est vraiment pas mal. De toute façon, j'adore la voix de ce type-là. Bref, ça vient d'Irlande, bébé. Alors, on a eu du courrier qui vient pas d'Irlande, mais du Luxembourg. Hein, nous sommes décidément une émission européenne. On avait déjà lu une des chroniques réalisées donc, par Christophe du Luxembourg.
Là, vous êtes en train de nous dire qu'on nous écoute même à Luxembourg-Ville.
International. Uh-huh. International. Uh-huh. Nos voix parcourent l'espace, mec. Et il nous propose, après nous avoir chroniqué le petit théâtre des opérations toujours prêtes de Julien Hervieux et de Virginie Augustin, chef Luc Glacial, la semaine dernière, il avait un deuxième papier, cette fois sur le Grizzly, tome 1, un drôle de Chabanais, de Mats et Fred Simon, qu'on connaît bien aussi, édité chez Dargo. Le Grizzly, en fait, c'est un ancien boxeur qui refusait de s'épiler avant de monter sur le ring, et donc on l'affublait de ce surnom poilu. Maintenant, il vend des voitures Citroën, nous dit Christophe, dans sa concession. Et il pense se marier, bref, il est rangé des voitures, si je puis me permettre. Malheureusement, son passé de cambrioleur remonte à la surface quand son copain Joe, devenu lui restaurateur, l'appelle au secours. Et les copains, c'est sacré. On dit qu'un copain, c'est quelqu'un qu'on peut appeler à 4h du mat et qui s'amène sans poser de questions, sans rechigner. Et donc notre Grizzly va se retrouver embarqué avec des vieux potes, Toine et Joe, dans une affaire vieille de plus de 10 ans. Un cambriolage qui aurait mal tourné, où Bébert la Gambie s'est pris 10 ans de prison après avoir été dénoncé et où le Grizzly a disparu. Dans cette histoire de gangster, dans le Paris des années 60 qui sent bon les tintins flingueurs, les dialogues sont savoureux, de l'argot à tous les étages, avec des flingues, des gueules de bandits, des règlements de compte. Un régal pour ceux qui aiment les récits policiers et les histoires de bandits dans la France de l'après-guerre. Graphiquement, le dessin Linclair est magnifique. Il suffit d'ouvrir la bande dessinée pour plonger dans le Paris des années 60. Le Grizzly, un drôle de Chabanais, une histoire complète, mais le petit teint sur la tranche de la BD nous fait attendre, écrit Christophe, avec impatience, la suite. Eh ben, c'est pas mal, ça.
Très bien.
Juste, on ne sait pas si les postelets, ils font pop. Ah. Parce que dans les Tontons Flagueurs, ils faisaient pop.
Surtout dans comment les barbouzes.
Ouais. Moi j'aime bien ce genre d'ambiance, je dois avouer. Donc le Grizzly tome 1, un drôle de Chabanais.
Bien vendu, moi je dirais.
De Mats et Fred Simon, édité chez Dargo. Et ben merci à toi Christophe. Et faites comme Christophe, envoyez-nous vos chroniques et on les lira avec plaisir à l'antenne.
Sachant que naturellement, vous n'avez pas oublié que nous gardons 50% des goodies.
Exactement.
Faut bien que nous vivions. Allez, moi je vous en fais deux. Parce que maintenant, je me sens un peu concurrencé avec les auditeurs qui nous envoient des chroniques. Alors moi, je peux en faire deux d'un coup. Parce que, allez, pirate.
Faut qu'il y ait un point commun entre les deux BD, j'imagine.
Voilà, bah oui, il faut qu'il y ait un point commun. Et là, moi, c'est le 18e siècle avec la piraterie. À travers deux albums, d'abord celui de messieurs Dobbs et Siam, Aléa, Druman, premier tome, il y en aura, sera un diptyque, L'héritage de Barbe Noire, et autre album, Naufrageur, de messieurs Rodolphe et Gnoni, chez Daniel Maguen. Donc du coup, voilà, vous voyez les enfants, si vous voulez en faire deux, il faut que ça ait le même thème. D'accord ?
Ouais,
voilà,
bien sûr. Ouais.
Voilà.
Ou alors c'est deux chroniques différentes.
Voilà. Et là, c'est plus cher. Donc du coup, alors on est dans deux univers différents. Commençons par Aléa Druman. Alors Aléa Druman, celui dont on taira le nom, la librairie dont on taira le nom, il m'a dit mais si t'aimes bien, c'est Barbe Noire. Il sait que j'aime bien Barbe Noire.
Il y a une rouquine sur la couve.
Ouais, alors elle est pas vraiment rouquine, elle est, on sait pas trop.
Une blonde vénitienne, on dit.
Blonde vénitienne, on va dire.
Elle a un flingue et une épée quand même, c'est cool ça.
Ouais, et il y a Barbe Noire. Barbe Noire, c'est vraiment un pirate qui a véritablement existé, faut le rappeler quand même, et qui a mal fini, hein, parce qu'il a été chopé par les Anglais, et que sa tête a été mise dans une cage à Londres, vous savez, sur les docks, là où on exposait les pirates et les bandits que l'on pendait, et sa tête a été exposée dans les ports, dans le port de Londres, pour dissuader les éventuels marins qui auraient eu envie de faire fortune trop vite.
C'est pas lui qui se mettait des flamèches dans les barbiches ?
Alors ça c'est bien, parce qu'effectivement, le personnage de Barbe Noire est devenu tellement mythique qu'il est propice à plein d'interprétations. Aussi, comment dirais-je, le scénariste il s'emmerde pas, et il a bien raison. Maintenant, peut-être qu'effectivement, faudra qu'il, quand même, qu'il fasse gaffe, parce que comment Monsieur Lucky, Monsieur Siam, Dobbs, ah, oh, ils sont trois aussi, c'est de leur faute, puisque on retrouve c'est trois personnes, hein, Monsieur Dobbs au scénario et Monsieur Lucky et Siam respectivement aux illustrations et aux dessins. Alors, je sais pas, là, il faudrait qu'ils nous expliquent.
Il y en a un qui fait le décor et l'autre les bonhommes.
Sans doute, peut-être.
C'est rien.
Et du coup, si vous voulez, à travers cet ouvrage, eh ben, Monsieur Dobbs s'empare de cette légende de Barbe Noire, et notamment, ce qui me kiffe bien, moi, dans Barbe Noire, c'est que pour faire peur, comment, à ses adversaires, il se mettait, au milieu de sa longue barbe, il se mettait des mèches, vous savez, des mèches, comment, une mèche de poudre, qui l'enflammait quand il attaquait le bateau adverse et les autres.
Il se faisait une tête de dingo.
Voilà, il se faisait une tête de dingo. Brave homme, s'il en est. En plus, il faut quand même savoir que ces histoires de viol, massacre et tout, n'étaient pas le cas de Barbe Noire, qui était réputée justement pour comment respecter le code des pirates.
C'est pas ce que dit Mediapart.
Ah bah non, ah, Mediapart, oui, MeToo chez les pirates, vous savez comment c'est, il faut faire le ménage, c'est bien possible. Et donc du coup, Monsieur Dobbs, lui, s'empare de Barbe Noire, plus exactement de sa
tête.
Ouais, du mythe de Barbe Noire, plus exactement de sa tête, pour... alors il nous raconte là que cette fameuse tête là qui avait été exposée à Londres et qui est restée pourrir à Londres, eh bien en fait aurait été chippée par un autre pirate, Rackham, et que cette fameuse tête aurait été, si vous voulez, elle est magique un peu cette tête-là. Alors Dieu sait pourquoi, mais il se trouve que Barbe Noire a quand même un peu pactisé avec le diable, ce qui aurait d'une certaine manière l'aurait rendu immortel. Mais c'est là où ça devient compliqué, parce que du coup, même séparé de sa tête, Barbe Noire n'est pas mort.
Il parle peut-être.
Il parle encore, il parle, et il perturbe l'esprit de sa fille, parce qu'il a une fille, en tout cas dans cette BD.
Il lui envoie des ondes, des visions, des trucs comme ça.
Voilà, à travers ses rêves, et Aléa Druman va se mettre en quête de la tête de son père.
D'accord, c'est la fille de Barbe Noire qui essaye de retrouver la tête de papa piquée par Rackham.
Voilà.
Dit le rouge.
Voilà, là, il dit pas le rouge là. Ils disent Rackham tout court, sinon c'est édition RG, comment vous savez comment c'est là, édition Tonnerre de l'Ouest, c'est police, menottes, prison, galères.
On peut plus rien dire.
Voilà. Eh ben écoutez, c'est rigolo hein, quand on s'empare de... Moi j'aime bien Barbe Noire.
L'idée est pas mal. Ouais. Mais il y a du bateau, il y a du bateau.
Alors le dessinateur et l'illustrateur ne sont pas encore peintres de la marine. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre ouvrage de piraterie, lui aussi, parce que j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien les Romains en robe, mais j'adore aussi le pirate en barbe. Et effectivement, je kiffe bien. Et là, la semaine prochaine, je vous parlerai d'un ouvrage illustré par un auteur qui est peintre de marine et qui, de ce fait, a le droit de mettre une petite tanque de marine quand il signe son bouquin. Et c'est pour ça que là, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais écoutez, l'histoire est originale. Deux tomes, j'attends le deuxième tome. Je ne vais pas trop comment vous pourrir l'histoire. Je pense que j'ai résumé l'affaire. Et on peut espérer, effectivement, que le deuxième tome tienne les pas.
Un diptyque.
Yep. Okay. Et ça, un diptyque, c'est bien, parce que je ne vous voyais pas engagé sur quatre albums. C'eût été peut-être un petit peu abusé. Naufrageur, one shot. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, c'est un coup, sinon rien. Et donc, du coup, one shot, Naufrageur, paru aux éditions Daniel Maguen, avec messieurs Rodolphe et Scénario et Gnoni, au dessin. Alors, monsieur Rodolphe, on l'a rencontré, hein, il a lui-même une tête de pirate. Sauf que là, en fait, le cœur de l'intrigue, il n'est pas sur mer, il est sur terre. Tout le monde a entendu parler de ces affreuses légendes sur les naufrageurs, des affreux paysans en bord de côte qui, lorsqu'ils crevaient trop la dalle, allumaient des grands feux pour faire mine, les jours de tempête pour faire mine que... parce qu'en fait, la coutume, c'était en cas de tempête, dans les ports, les feux n'étaient pas allumés tout le temps comme aujourd'hui.
Ouais.
Et avant que le règne sur mer, le règne des phares et balises, eh bien effectivement les feux étaient assez intermittents, mais par contre les gens allumaient des grands feux pour protéger et indiquer aux marins là où il pouvait y avoir un endroit pour aller se mettre à l'abri en cas de tempête. Les naufrageurs, eux aussi allument un feu, mais en fait de port, c'est des vilains récifs.
Viens voir les cailloux.
Voilà, c'est des vilains cailloux, le bateau s'éventre, les naufrageurs montent à bord, ils butent tout ce qui a survécu au naufrage, ils pillent le bateau, ils détruisent le bateau en espérant qu'effectivement après on ne vienne pas les emmerder. Et c'est ce qui se passe dans le village où se passe cette histoire. On est en Angleterre, au sud-est de l'Angleterre, et dans ce coin-là, faut bien vivre, faut bien vivre mon bon monsieur, et la vie est dure, et la vie est tellement dure que dans ce bled on s'est fait une spécialité de devenir naufrageur. Et l'histoire commence alors qu'un jeune garçon est réveillé par son papa, et que son papa l'emmène voir le chef du village qui lui dit, il va falloir qu'on t'explique. Maintenant, tu as 16 ans, tu es en âge de comprendre comment on vit dans le village. Et c'est horrible, horrible. Et effectivement, ce gamin est particulièrement meurtri par le premier naufrage auquel il assiste, parce que on le réveille en pleine nuit, il voit le massacre des marins. En plus, c'est des marins dont il connaissait certaines personnes, parce que c'était des gens du coin, quoi. Vous voyez, c'est assez abominable. Mais voilà que ça se complique, parce qu'à bord de ce bateau, il y avait un voyageur, et que ce voyageur était lesté de pierres précieuses. Et ces pierres précieuses étaient destinées à un putain de notable anglais du port dans lequel le bateau devait mouiller. Et ça, ça ne rigole pas aussi.
Il y a des recherches et une enquête.
Il y a des recherches, il y a une enquête. Vous imaginez bien que ça part en autre boudin. Et notre héros se retrouve assisté à quelque chose qui le dépasse totalement. Et il voit son père qui ricane au début avec les naufrageurs. C'est terrible. Et je dois vous avouer que cet ouvrage de naufrageur m'a particulièrement marqué. Le dessin m'a totalement convaincu. Alors, je connaissais pas le travail de Monsieur Gnoni, grand lecteur de bande dessinée. Il travaille il a quand même publié un paquet d'hommages, dont notamment Je suis un autre. Ça vous dit quelque chose, ça, Je suis un autre?
Non, ça me fait penser à Lovecraft, Je suis d'ailleurs, mais.
Je croyais vous faire plaisir, mais bon, qu'est-ce que je vous dise. En 2018, avec Monsieur Rodolphe au scénario, ça vous dit rien?
Non.
Putain, faudra vous écouter, vous écoutez plus mes pinceaux de temps en temps.
J'essaye.
Je connaissais pas, moi, son travail. Ça m'a pleinement convaincu. Et puis surtout, cette ambiance de ce jeune homme-là, qui est amoureux de la fille du chef du village, une jeune femme aveugle, qui va apprendre effectivement que alors que c'est une vraie blanche colombe, quoi. Et elle va apprendre effectivement que son papa est un affreux bonhomme.
Ça a l'air pas mal.
Ah ouais, naufrageur, c'est très, très flippant.
Et vous l'avez gardé, l'album, là, vous ne l'avez pas filé?
Ah si, je peux vous le passer, Naufrageur. Édition Daniel Maguen. Alors, ce qu'il y a de bien avec Daniel Maguen, pardon, c'est le petit plus en plus, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus grands que les ouvrages de BD franco-belges, et que l'édition Maguen attire, prennent un soin tout particulier au dessin, parce que souvent, les planches de ces albums sont revendues, parce que chez Maguen, c'est aussi une galerie d'art. Voilà.
C'est indie, c'est américain, c'est Wednesday, mercredi. Le morceau s'appelle Carrie. The rain rotted house on the dead end of bay tree. Oh, bitter lady. Sit scatty corner to the aftershock. Size candy bars on high. Wednesday, le morceau s'appelle Carrie, c'est une tuerie indie américaine comme ils savent si bien les faire. L'album que je vais vous proposer, je pense qu'il fait l'unanimité en ce moment, on en entend parler partout. L'auteur était même sur France Inter en début de semaine, c'est pour te dire. Guillaume Saint-Gelin revient très très fort dans son label 619 de cœur avec l'album qui s'appelle Frontières. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Roger. Mais c'est vraiment, effectivement, un album qui ne peut que susciter l'intérêt, car il est vraiment excellent à tout point de vue. On est dans le futur, l'humanité est partie à la conquête du système solaire, on est parti dans des vaisseaux. Certains pour explorer, d'autres ont des ambitions plutôt de s'installer, ou tout simplement pour exploiter les minerais récupérables de ci, de là. L'espace est devenu vraiment la nouvelle frontière, mais au sens américain de la chose, tu sais, comme le Far West l'avait été. C'est-à-dire, c'est vraiment le lieu des possibles où, justement, les individus ont à la fois une opportunité de se forger un destin qui correspondra à leur goût, et puis parce que finalement, les lois, l'État, etc. sont lointains. C'est un lieu de liberté et donc d'opportunité. Et en fait, donc, l'homme s'est lancé dans l'espace et c'est devenu la nouvelle frontière. Faut dire qu'apparemment, on a un petit peu salopé la planète mère. Donc, logiquement, on est parti un peu voir ailleurs.
Pour saloper ce qui reste.
Exactement. Parce qu'évidemment, ce genre de cet essor extraplanétaire, ça induit des enjeux économiques, ça intéresse des grandes corporations. Et nos trois personnages sont en fait trois personnages qui vont réaliser qu'ils sont broyés dans la machine assez déshumanisante qui les emploie, puisqu'ils sont tous plus ou moins liés à ces grandes corporations qui ont pris quand même l'ascendant sur ce qu'est la conquête de l'espace, à savoir une prédation, notamment sur les minerais, on va sur Mercure, etc., mais pour forer, etc., on a des stations spatiales où on peut se lancer sur des expériences génétiques, les lois étant différentes, on peut tenter des trucs sur des animaux, c'est super. Tu retrouves vraiment ce côté prédateur de l'homme, quoi, destructeur de son environnement. Et nos trois personnages vont avoir une prise de conscience et tenter leur chance aussi, tenter de finalement de ce que c'est un espace d'opportunité pour reprendre en main leur destin et surtout en faire quelque chose qui réponde beaucoup plus à leurs attentes. Et c'est vraiment en ça où c'est un album intéressant parce que Guillaume Saint-Gelin là se lance finalement sur vraiment quand même une réflexion sur le destin de l'humanité quoi. Dans un univers de science-fiction, c'est pas du space opéra, tu sais, des Star Wars, le bien, le mal, des gentils, des méchants. C'est vraiment finalement une science-fiction d'anticipation, qui te renvoie à des questionnements très contemporains. Je te dis, la vie en communauté, les grandes entreprises, les expériences sur les animaux. Nos trois personnages sont hyper attachants. T'as Jinso, une scientifique. Elle travaillait sur une sonde expérimentale, vraiment pour explorer l'espace. Et puis un énorme groupe industriel va racheter sa petite entreprise pour utiliser sa sonde, mais à des fins beaucoup plus commerciales. Elle reste dans l'entreprise, mais elle est un peu trouble faite, elle est ballottée d'un poste à l'autre, et puis elle va être envoyée dans une station minière, et c'est elle qui va rencontrer le deuxième personnage, Alex. Lui, c'est un ouvrier qui est né dans l'espace, qui a toujours vécu dans l'espace, et c'est un mineur, tu vois, un mineur de l'espace, qui a jamais foutu le pied sur un sol ferme, qui connaît vraiment que la vie en station. Et tous les deux ils vont fuir avec un troisième personnage qui est un petit bébé singe qui s'appelle Goku, et ils vont atterrir sur Mercure où ils vont rencontrer le dernier personnage humain, le troisième personnage humain du trio, Kamina, une ancienne mercenaire qui bossait pour les corporations, tu sais, qui menait des raids sur les stations des autres pour leur piquer des secrets informatiques, de télécommunications, des fichiers, etc. Elle a perdu un bras dans l'affaire et puis elle en a marre quoi. Donc ces quatre personnages vont se retrouver et puis ils vont essayer de trouver un sens à leur vie qui correspond plus à leurs attentes et qui soit beaucoup plus productif et beaucoup plus sain, qui échappe à ces grandes entreprises. Donc tu as cette espèce de grande aventure, de grande réflexion, et c'est vraiment super parce que la vie dans les stations spatiales est vraiment bien racontée, techniquement ça doit être très juste, il y a vraiment une réflexion. Ça a pris 10 ans à Saint-Gelin pour faire ce bouquin, c'est vraiment un truc qui travaille.
On va pas dire, c'est un gros livre.
Ah oui, et puis si tu te souviens de lui, dans le Grosserie, il dessinait déjà avec un dessin extrêmement fouillé, bah là quand il te fait les stations spatiales, les sols martiens...
Ah, il s'est fait chier pour le détail.
Ah putain, et c'est même chiant parce que même si l'album est beau, un peu plus grand, il y a tellement de plénitude de petits dessins que moi, j'arrive plus à lire de loin là. Alors j'enlève mes lunettes, je me rapproche, je regarde les écrous.
À mon avis, c'est
parce
qu'il doit travailler sur des grosses planches.
Oui, oui, j'imagine, à la Plessis. Exactement, je pense ça. Mais le dessin est d'une richesse. Là, il a enlevé le côté, tu sais, un peu animal que pouvaient avoir ces personnages de Grosserie. Ils ont tous toujours ces espèces de petites têtes de haricots ou de flageolets là, mais ils sont tous humains. Ils sont hyper attachants. Ça te fait réfléchir. Et puis vraiment, en plus, il a choisi un rythme de narration. Tu vas voir, il y a tout. Il y a des scènes d'action, des scènes de réflexion. Tu les vois dans leur quotidien. T'as des planches qui vont être muettes où tu les vois par exemple travailler. Alors ils sont au self. Ensuite, ils travaillent dans la couchette. T'as des moments de vie comme ça aussi, intimistes, quoi, qui sont hyper attachants. Il prend le temps de poser ses personnages, de lancer l'histoire et de nous mener dans cette espèce de réflexion et de parcours. Et petit à petit, tu vois, toi-même, tu t'interroges sur effectivement notre rapport à l'animal, le côté on exploite la planète à donf, est-ce qu'il y a une vie possible sur les marges où on pourrait avoir manger notre compost finalement, quelque part, on pourrait dire.
Mange ton compost dans ton tiers-lieu.
Mais c'est vachement intéressant. Et vraiment, cet album est une réussite parce que je crois qu'il a maturé vraiment, si j'ai bien compris, pendant 10 ans. Il a jamais lâché l'affaire, il l'a élaboré et ça a eu le temps de maturer, et le produit final est vachement bien, aussi bien donc la narration que l'album en lui-même, qui est très très beau. Et vraiment, le label 619, c'est devenu, je trouve, un des labels les plus intéressants parce que ils sont sortis de la série Z qu'ils faisaient avant, les Doggy Bag et tout. Moi, que j'adorais, hein, le côté badass, les histoires de tueurs en série de loup-garou, etc. C'était vraiment super. Je sais qu'avec Petit Fringant, on partageait le goût de ces
albums. Oui, tout à fait. Et albums. Ils continuent.
Ils continuent, mais maintenant, ils apportent aussi tous ces albums et ça fait un moment de gros albums où on voit que ces auteurs qu'on aurait pu cataloguer, ah ouais, les petits jeunes, ils sont influencés par le manga, le comics, ils te foutent des bonhommes en cuir qui bondissent avec des coutelas, des machetés, etc. Ils sont bons qu'à ça, des histoires de zombies. Non, ils en ont aussi dans le ciboulot et ils te proposent des trucs hyper intelligents. Et Frontières, vraiment, c'est un album, à mon avis, qui a marqué l'année. Enfin, et là, je j'innove pas en le disant, on est beaucoup à le dire. Explore, Explain, Escape, Frontières, Saint-Gelin, dans le label 619. Un gros album, un bel album. Vraiment une grande, grande réussite, à mon goût.
48,50 €.
Non, mais il est même pas si cher que ça.
Combien qu'il coûte ?
Il doit être dans les 22 €.
Ouais, c'est pas cher.
Non.
Pas cher, vu la taille.
Et la qualité.
C'est à moi ou c'est à
Nice ? Faites-vous... Non, à vous.
Eh ben voilà, tiens. Allez, un ouvrage que je dédicace à notre ministre de l'économie, parce que ça va lui plaire, parce qu'on parle que de cul là-dedans. On ne parle que de cul.
Dilaté ou pas dilaté ?
Bah écoutez, on va le savoir, tout le monde va le savoir. Un excellent ouvrage que nous devons au talent conjoint de messieurs Aurélien Ducoudray, qu'on ne présente plus, et Nicolas Dumonteuil, que les plus vieux auditeurs de Canal B, et plus exactement de Plume et Pinceau, ont déjà entendu, puisque nous l'avions reçu en direct pour un plateau, puisqu'il était déjà le dessinateur de la colonne. Vous vous rappelez, c'est l'histoire de colonne infernale en Afrique, deux cinglés qui vont se livrer à des massacres.
Ils ont un peu perdu le contrôle.
Moi, j'adore Nicolas Dumonteuil parce qu'il a un trait qui pourrait prêter à se dire « Ouais, c'est fun et tout ». Non, c'est pas toujours fun. Effectivement, ces personnages sont dessinés de manière parfois un petit peu caricaturale, même souvent, parce que c'est un peu son style. Mais c'est pas toujours fun. Là, c'est fun. Donc c'est cool. C'est quoi la pudence des chiens ? Eh bien, je vais rester dans le 18e, moi, aujourd'hui. On est dans le 18e, puisque cet ouvrage nous raconte les mésaventures du comte de Dardille. Le comte de Dardille qui est dans un bel imbroglio. Un imbroglio. Ouais, judiciaire. Puisque sa femme, Amélie de Figule, l'accuse de renacler à la besogne. Il ne l'a point honorée. Aussi, elle réclame donc le divorce et la moitié de sa fortune. Charge au facétieux marquis de préparer son ami le comte à l'épreuve du congrès. Le facétieux marquis, c'est-à-dire le marquis que notre héros va aller chercher pour le sortir de la mouise. Parce qu'effectivement, notre comte de Dardille, il est dans la merde parce que comme il n'arrive pas à honorer sa femme, elle est mignonne, elle est bonne, nous dirait notre ministre de l'économie, hein, même chaudasse, elle aurait même extrêmement dilaté. L'anus même dilaté, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre. Ouais, je suis couvert, lui-même il le dit. Donc si le ministre de l'économie...
Ah mais on a tous entendu que c'était entre guillemets.
Hein. Oh, bah, bien sûr, lui aussi il le dit. Et ça le détend, il paraît, d'écrire des bouquins de cul entre deux réformes pourries. Et donc du coup, notre comte appelle à son secours un marquis qu'il connaît être chaud bouillon, un peu comme notre ministre. Ça lui aurait pas déplu d'ailleurs à l'époque, parce que comment on découvre, et ben effectivement... Le marquis se met à la tâche d'essayer de redonner un dard vivant au comte François de Dardille. Mais c'est pas évident, parce que le comte François de Dardille, finalement, ne kiffe que pour le soldat de plomb.
Que pour le soldat de plomb,
c'est-à-dire que après là, il a un petit peu de bouteille, hein, François de Dardille, d'ailleurs que son ami le marquis, qui comme lui ont fait la guerre, hein, ils ont buté du Prussien, de l'Autrichien, de l'Anglais, ils en sont revenus intacts. C'est déjà pas mal. Et par contre, c'est à la guerre qu'ils se sont connus. Mais depuis, alors que pendant la guerre, le comte François, on imagine que pendant la guerre, le comte François, etc. En fait, non. Le comte François est vierge. Et ça, on va le découvrir. Qu'est-ce qui va donc pouvoir redonner le vie et le courage au comte François de Dardille ? C'est ce que vous découvrirez si vous faites, vous avez la bonne idée d'acquérir L'impudence des chiens, paru aux éditions Delcourt, que nous devons donc encore une fois à messieurs Ducoudray et Dumonteuil. Et c'est très drôle parce que en fait, il reprend...
Texte partout.
Ah, il y a beaucoup de texte. Il y a un petit peu de texte, mais aussi de l'image. Puis je vous dis, c'est cette espèce de très, très BD caricatural. On se croirait chez Spirou. C'est avec des personnages comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir en quoi consiste ce fameux témoignage qu'elle réclame, notre chaudasse, là. Comment il dit ? Chaude comme une baraque à frites, qui nous dit le ministre. Comment dirais-je ? Surtout après ses règles, il paraît qu'elle était folle. Ce serait bien d'ailleurs que monsieur Mediapart, il s'inquiète de voir un MeToo chez les ministres de l'économie, parce que quand on voit ce qu'il écrit, on peut quand même un peu se demander. Et chez les Dalai Lama aussi, celui qui lui demande de lui sucer la langue à à 27 ans, mon Dieu. Bref, dans l'impudence des chiens, on va découvrir en quoi consistait cette fameuse épreuve. Fameuse épreuve où alors vous allez devoir honorer votre chéri devant tout le monde. Il y a plein de monde. Et ça va se faire dehors. Et avant que ça se fasse dehors, il y a des tests gynécologiques. Donc vous imaginez bien les tests gynécologiques de l'époque, quoi.
Ouais, putain.
Et tu vois
tout ça dans la BD.
Et on voit tout ça dans la BD, la préparation du duel ou du tournoi.
Et il fait des blagues avec ça.
Ouais. Bah, il fait des blagues, je vous dis, il nous raconte, il nous l'histoire. Mais je vous dis, c'est le côté cocasse. Ah, il faut être ministre de l'économie hein, pour kiffer là-dessus, j'imagine. C'est pour ça que je lui l'ai un peu dédié, parce que je pense que comme il aime bien la chose, ça devrait lui plaire. Comme moi, ça m'a plu d'ailleurs, même si je ne suis pas ministre de l'économie.
Alors ça vous est plu, moi je trouve pas ça très rassurant, parce que vous avez lu Vermine, vous avez ri.
Oui.
Dans le genre coucherie bizarre, c'était déjà pas mal.
Mais alors comment effectivement le comte de Dardy va retrouver son vie ?
Oui, voilà, telle est la question en fait.
Et va-t-il retrouver son vie ?
Ouais.
Eh ben je ne vous le dis pas, vous avez qu'à acheter le bouquin, c'est super, on se fend bien la goule. On découvre des mœurs un peu tordues parce que c'est la cérémonie, si j'ose dire, va se dérouler devant un cureton. Et devant un juge. Et on a vous savez bien, on fornique, certes, mais c'est pour la plus grande gloire de Dieu.
Ouais.
Donc, il y a plein de gens qui assistent. Le lit va être installé sur une espèce.
Ils ont des notes, ils ont des petits panneaux avec des notes.
le lit va être installé sur une espèce d'estrade. Il y a plein de gens qui débarquent. C'est à pisser de rire.
Shame.
L'impudence des chiens, aux éditions Delcourt, messieurs Ducoudray et Dumonteuil. Gueulez après votre libraire, parce que ça, c'est une sortie d'octobre, l'automne 2022, mais avec tout ce qui se passe.
Bertrand va vous dire que c'est vieux.
Oui,
ça.
Bertrand va me dire que c'est vieux. C'est pas si vieux que ça. Donc vous gueulez sur le libraire dont nous tairons le nom, et il peut commander auprès des éditions Delcourt, pardon, cet excellent ouvrage à pisser de rire. Vous allez découvrir les mœurs du 18e, où on découvre quand même quelque chose qui est assez amusant.
Il ne s'arrêtera jamais.
Non. Vous savez, c'est en fait la morale. Il nous est tombé, c'est surtout au 19e que nous est tombé une putain de morale pudibonde qui nous est venue d'Angleterre, d'ailleurs, avec le puritanisme anglais à la con, là. Parce que, à cette époque-là, si vous voulez, la chose sexuelle était quelque chose de très naturel, d'autant qu'à l'époque, les sous-vêtements n'existaient pas, et quand on se soulageait devant tout le monde. Donc, tout le monde pouvait voir, effectivement, la qualité de vos attributs.
Il nous faut un révérend pour purifier cette émission. On va faire appel au révérend Peyton et avec son band. Parce que tu sais, le devil's looks like angel. Le diable ressemble à un ange.
Ouais, tout à fait.
Angels.
le révérend Peyton avec son band Devils Looks Like Angels. Le clip est excellent, faut regarder la petite
avec
gamine.
La petite gamine là.
Ouais, trop
faudrait
drôle.
Pas la présenter au Dalai Lama. Moi je dis ça.
Voilà qui vient clore la 453e émission de Plume et Pinceau. Émission de bande dessinée de Canal B. Donc, si vous avez bien compris, vous pouvez nous envoyer des chroniques. Il suffit de regarder sur notre blog. Tout en bas, il y a l'adresse que nous prête les Grignoux pour pouvoir que vous envoyez vos messages, vos chroniques.
Sur l'adresse des Grignoux, vous l'avez mise.
Ouais, ils n'ont qu'à aller sur le blog. À un moment, il faut un peu de toi-même.
Ouais, il faut un peu d'autonomie quand même.
Non, mais si tu veux la moitié d'un briquet, il faut quand même le gagner. Voilà. Donc, fais un effort.
Voilà, je suis d'accord.
À la semaine prochaine.
Tant qu'on a le droit.